VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 juin 2017, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
Les corps d'au moins 25 migrants ont été découverts hier en Libye.
Le pape François créera aujourd'hui 5 nouveaux cardinaux, dont l'archevêque malien Monseigneur Jean Zerbo, le premier cardinal de l'histoire de son pays.
4 pays d'Afrique australe ont interdit les importations de volailles venant d'Afrique du Sud.
Au Burundi, rencontre probablement demain à Bujumbura entre le nouvel émissaire spécial de l'ONU, Michel Kafando, et le président Pierre Nkurunziza.
Paris et Washington d'accord sur la nécessité de travailler à une réponse commune en cas d'attaque chimique en Syrie, selon l'Élysée.
Des multinationales, sociétés et services européens et américains victimes d'une vague massive de cyberattaques au ransomware après l'Ukraine et la Russie.
La majorité républicaine du Sénat américain renonce à voter cette semaine sur son projet de réforme du système d'assurance santé.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Découverte hier en Libye, dans l'est de la capitale, des cadavres en décomposition d'au moins 25 migrants. Ils sont morts noyés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Eric Manirakiza.
Selon le Croissant Rouge, la plupart des corps gisaient au milieu des rochers près de la banlieue de Tadjoura. D'autres ont été découverts sur une plage. Au même moment, les gardes-côtes libyens ont secouru près de 150 personnes. La plupart sont des jeunes du Sénégal, du Mali, du Cameroun et du Soudan. Ils ont été par la suite mis dans un camion pour être conduits à un centre de rétention. Une femme tenant son bébé de quelques mois a éclaté en sanglots après avoir vu son rêve de rejoindre l'Europe s'envoler en quelques heures. Elle avait aussi versé son argent aux passeurs. Au cours des dernières 48 heures, plus de 8000 migrants ont été secourus au large de la Libye. Les autorités italiennes affirment également que plus de 73 000 migrants sont arrivés en Italie depuis janvier dernier. D'après les Nations Unies, cette périlleuse traversée de la Méditerranée dans des bateaux surchargés et vétustes a déjà fait cette année plus de 2000 morts ou disparus.
Le pape François créera ce mercredi, comme prévu, 5 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire, a indiqué mardi le service de presse du Vatican, mettant ainsi fin à des rumeurs sur une absence à Rome de l'archevêque malien Monseigneur Jean Zerbo. Des rumeurs de presse avaient évoqué cette semaine un subit désistement pour raison de santé dans le contexte d'informations parues en mai sur des comptes bancaires en Suisse de l'église malienne. Monsieur Zerbo deviendra bien, à 74 ans, le premier cardinal de l'histoire du Mali.
Nous reviendrons dans la seconde partie de cette édition sur cette nouvelle avec Kassim Traoré. Au Burundi, le nouvel émissaire spécial de l'ONU, Michel Kafando, doit rencontrer aujourd'hui le ministre des Relations extérieures, Alain Nyamitwe, avant de rencontrer le président Pierre Nkurunziza demain matin, probablement. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable cité par l'AFP. Monsieur Kafando est arrivé hier à Bujumbura pour une visite protocolaire. Il doit ensuite se rendre en Tanzanie pour y rencontrer l'ancien président Benjamin Mkapa, facilitateur dans la crise burundaise.
Au Kenya, 8 personnes, 4 enfants et 4 policiers ont été tués et plusieurs autres blessés mardi par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule dans l'est du pays, à la frontière avec la Somalie. Selon l'AFP, qui cite une source policière, les enfants rentraient de chez eux à Mararani, dans le comté de Lamu, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, pour revenir à Kiunga, où se trouve leur école, sous la garde des policiers. On soupçonne les chebabs somaliens.
4 pays d'Afrique australe ont interdit les importations de volailles venant d'Afrique du Sud, où une épidémie de grippe aviaire très contagieuse s'est déclarée dans 2 fermes. Morgan Guiriek.
La Namibie a interdit l'importation de poulets sud-africains vivants et non cuisinés. Le Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique avaient pris la même décision. La Zambie a arrêté l'importation de certains produits dérivés provenant d'élevages sud-africains. En vue de contenir l'épidémie de grippe aviaire de souche H5N8, les autorités sud-africaines ont ordonné l'abattage de milliers de volailles. Pretoria a par ailleurs émis une interdiction de vente de poulets vivants sur tout le territoire national. Au début du mois, le Zimbabwe avait placé en quarantaine un élevage privé de la banlieue de Harare après la mort suspecte de 7000 volailles. L'Afrique du Sud, le Mozambique et le Botswana avaient alors décrété un embargo sur le poulet venant du Zimbabwe. Et d'après les experts, la souche H5N8, extrêmement contagieuse, est arrivée dans la région avec la migration d'oiseaux. Depuis octobre, cette souche a été détectée dans 15 pays européens comme l'Angleterre, la France et l'Allemagne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents français et américains Emmanuel Macron et Donald Trump ont souligné hier, lors d'une conversation téléphonique, la nécessité de travailler à une réponse commune en cas d'attaque chimique en Syrie. Cette déclaration de l'Élysée fait suite aux accusations des États-Unis qui, lundi soir, ont déclaré que le régime syrien de Bachar al-Assad préparait une nouvelle attaque chimique et se sont dit prêts à riposter comme il l'avait fait après une attaque similaire début avril.
En Syrie, pendant ce temps, le groupe État islamique en désarroi à Raqqa a de plus en plus recours à de petits groupes de kamikazes pour faire face à l'offensive des SDF, les forces démocratiques syriennes appuyées par les États-Unis et les frappes aériennes de la coalition. Alors qu'auparavant, les djihadistes envoyaient au front des centaines de combattants contre les SDF, maintenant leur stratégie consiste à envoyer des groupes de 6 ou 7 kamikazes pour causer un grand nombre de victimes, on dit à la VOA des commandants SDF sur place.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a de nouveau appelé au dialogue entre le Qatar et ses voisins du Golfe pour résoudre l'impasse grandissante entre ces pays. Trois semaines après que l'Arabie Saoudite et trois autres États arabes eurent isolé économiquement et diplomatiquement le Qatar, M. Tillerson a reçu son homologue Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani du Qatar, un allié fidèle des États-Unis. Il a aussi rencontré le ministre d'État du Koweït, cher Mohamed Abdullah Al-Sabah, et réaffirmé son grand soutien aux efforts de médiation de ce pays. Après, malgré les appels au dialogue, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis continuent d'insister sur leurs exigences, dont la réduction des liens du Qatar avec l'Iran et la fermeture de la chaîne Al Jazeera.
Une vague massive de cyberattaques au ransomware, rappelant le mode opératoire du virus WannaCry en mai, a touché des multinationales et des sociétés et services européens et américains après avoir frappé en Ukraine et en Russie. Selon Microsoft, la vague d'attaques utilise plusieurs techniques pour se propager et notamment une faille de Windows pour laquelle le groupe avait déjà diffusé un correctif. Selon plusieurs entreprises attaquées, le virus fait apparaître une demande de rançon de $300 en monnaie virtuelle sur l'écran des ordinateurs.
Ici à Washington, la majorité républicaine du Sénat américain a renoncé mardi à voter cette semaine sur son projet de réforme du système d'assurance santé. L'abrogation partielle de l'Obamacare a buté sur la résistance d'une poignée de frondeurs. Claire Morin-Gibourg.
Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a annoncé hier que la proposition de loi ne sera pas examinée cette semaine. Le sénateur David Perdue ajoute que le vote pourrait avoir lieu en juillet. Sur les 52 sénateurs républicains, au moins 5 sont contre, alors que le groupe ne peut se permettre que 2 défections. Des ultra-conservateurs estiment que le projet ne va pas assez loin pour supprimer Obamacare, alors que les modérés s'inquiètent de voir des dizaines de millions d'Américains privés d'assurance santé. Les 48 démocrates ont fait front commun contre l'initiative. Le report du vote est un revers pour le président Donald Trump, qui a du mal à concrétiser sa promesse électorale d'abrogation de la loi démocrate de 2010. Dans l'après-midi, tous les sénateurs républicains ont été invités à la Maison-Blanche.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a affirmé mardi que deux grenades avaient été tirées depuis un hélicoptère contre le siège de la Cour suprême à Caracas, dénonçant une attaque terroriste. J'ai activé toutes les forces armées pour défendre l'ordre. Nous allons capturer très vite l'hélicoptère et ceux qui ont réalisé cette attaque terroriste, a déclaré le président socialiste lors de la célébration de la journée du journaliste au palais présidentiel de Miraflores.
Au Brésil, le président Michel Temer a qualifié mardi de fiction les accusations de corruption dont il fait l'objet, critiquant l'absence de preuves concrètes. Il s'agit d'une attaque injurieuse et infamante à ma dignité personnelle, a affirmé M. Temer dans sa première réaction officielle à sa mise en accusation formelle lundi soir par le procureur général Rodrigo Janot. La Minute Éco, Jacques Aristide.
NCA Bank de Côte d'Ivoire lancera lundi prochain une première offre publique de vente d'actions d'une valeur de 34,53 milliards de francs CFA. Elle prépare son entrée en bourse en septembre à la BRVM, à la bourse de l'UMOA basée à Abidjan, pour mobiliser plus de capitaux afin de financer son développement. La banque fait partie du groupe NCA, un important fournisseur d'assurance dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il opère une autre banque en Guinée. L'État congolais va récupérer toutes les concessions terriennes qui n'ont pas été suffisamment exploitées afin de permettre aux autochtones de mettre en valeur ces terrains. Déclaration du ministre des Affaires foncières, Lumeya Dumalengi, lors d'une récente rencontre avec les conservateurs du titre foncier de Kinshasa. La Banque centrale sud-africaine a saisi hier la haute cour du pays pour empêcher que son mandat soit modifié. D'après son gouverneur, la recommandation du médiateur anticorruption qui veut que la South African Reserve Bank se focalise sur la croissance économique au lieu de la stabilité des devises compromettrait le rôle de l'institution chargée de la stabilité du système financier. Des investisseurs voient dans ce projet une volonté de restreindre l'indépendance de la banque et craignent pour leurs avoirs.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe COSAFA, deuxième journée du groupe B.
Oui, Madagascar et le Zimbabwe, 3 points chacun, seront aux prises. Peu après, le Mozambique et Seychelles, 0 points de part et d'autre, tenteront de se donner plus de chances dans cette compétition. Rappelons qu'hier, les choses n'ont pas bougé dans le groupe A. 0-0 entre Maurice et Malawi, même score entre Madagascar et la Tanzanie qui trône toujours en tête du groupe avec 4 points.
Première demi-finale de la Coupe des Confédérations aujourd'hui.
Effectivement, Portugal-Chili pour commencer. Champion d'Europe en titre, le Portugal tient son rang et va faire avec Cristiano Ronaldo, mais pourrait se passer de Bernardo Silva, touché à une cheville. Ricardo Quaresma a du coup de grandes chances d'être titularisé. En face, le Chili ne vient pas en victime résignée. Les vainqueurs de la Copa América ont débarqué en Russie avec l'ambition de frapper un grand coup. L'Aurora sud-américaine a fait appel à tous ses cadres, dont les 3 stars, le gardien Claudio Bravo, le milieu de terrain Arturo Vidal et l'attaquant Alexis Sanchez.
Le Marocain Jawad El Yamik file au FC Nantes.
En effet, l'international marocain Jawad El Yamik va finalement rejoindre la Ligue 1. L'entraîneur italien du FC Nantes, Claudio Ranieri, a donné son feu vert pour finaliser la transaction avec le Raja Casablanca. Les Canaris ont payé la clause libératoire de 800 000 euros pour décrocher le défenseur central de 25 ans.
L'agent de joueur Jorge Mendes, entendu par la justice espagnole.
Effectivement, Jorge Mendes est agent de joueur de Radamel Falcao, soupçonné d'avoir dissimulé au fisc plus de 5,5 millions d'euros de revenus liés à ses droits à l'image lorsqu'il évoluait à l'Atlético Madrid entre 2012 et 2013. Pendant cette audition, Jorge Mendes a été mis en examen. L'agent de joueur serait au cœur d'un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore mis en place pour réduire les frais fiscaux de ses sportifs sur le pactole qui leur revient en publicité. Cristiano Ronaldo, dont Mendes est très proche, est le dernier footballeur visé par la justice espagnole pour ses montages. Ronaldo doit être entendu le 31 juillet pour une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le pape François créera aujourd'hui à Rome, comme prévu, 5 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire. Parmi eux, l'archevêque malien Monseigneur Jean Zerbeau, le premier cardinal de l'histoire de son pays. Cette nouvelle a été naturellement très bien accueillie à Bamako par toutes les confessions religieuses du pays, des autorités aux citoyens ordinaires, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Le pape nommera ce mercredi 28 juin 2017 5 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire. L'archevêque Jean Zerbeau, âgé de 74 ans, sera le premier cardinal de l'histoire du Mali. Jean Zerbeau n'est pas seul. Il y a un Suédois, un Espagnol, un Laotien et un Salvadorien, Étienne Fakaba Sissoko, fidèle chrétien.
Un cardinal, c'est d'abord un prêtre. Dans l'exercice de la prêtrise, il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés de responsabilité. Ensuite, on peut devenir curé et après curé, on devient vicaire, c'est-à-dire l'adjoint direct de l'évêque. Ensuite, on peut devenir évêque et c'est après avoir été évêque que l'on peut devenir cardinal. C'est le dernier niveau, en tout cas, de nomination qu'un prêtre peut espérer, en tout cas quand il s'agit de nomination.
Ce poste offre la chance au cardinal de devenir pape. Il doit être choisi parmi les autres cardinaux lors d'un vote interne. Gabriel Tchenou, fidèle chrétien.
Au cas où le pape ne serait pas à mesure d'exercer sa fonction, comme on l'a vu avec le prédécesseur de François, c'est entre les cardinaux que le futur pape est choisi. Désormais, le nouveau cardinal prendra place auprès du pape à Rome, où il va désormais siéger. Et peut-être en cas de besoin, il pourrait peut-être se rendre à Bamako, venir désormais, sa place serait au Vatican auprès du pape.
C'est avec joie et fierté que les Maliens ont accueilli la nouvelle de la nomination de l'archevêque Monseigneur Jean Zerbeau comme cardinal. Django Koulibaly, journaliste.
C'est un sentiment de fierté que j'ai à travers cette nomination, et parce que c'est tout le Mali qui est honoré, toute l'Afrique et honoré à travers cette nomination de notre cardinal. Et j'espère que la mission qu'on lui a confiée, il va la relever.
Monseigneur Jean Zerbeau est un homme engagé dans le dialogue interreligieux. Le prélat a joué un rôle actif dans les négociations de paix au Mali.
Moi, je m'appelle Ousmane Diabité, je suis citoyen malien. Pape a eu confiance à notre archevêque. Oui, notre archevêque est sûrier. Oui, notre archevêque est éclairaire parce qu'il éclaire toute une communauté chrétienne au Mali. Et partout où il y a la paix, notre archevêque se retrouve. Partout où il y a la violence, notre archevêque appelle les gens au calme. Nommer un Malien à ce poste, vraiment, c'est salutaire.
Avec la nomination de Jean Zerbeau comme cardinal, qu'est-ce qui va changer au niveau de l'Église catholique du Mali? Étienne Fakaba Sissoko explique.
Pour l'Église du Mali, rien ne va changer fondamentalement parce qu'il va toujours être l'évêque d'ici, du Mali. Mais dans le fonctionnement, puisqu'il aura chaque cardinal à Rome, un diocèse aussi à gérer. Donc ce qui va faire qu'il va être entre le Mali et Rome. Il peut décider, lui s'il le veut, de choisir un vicaire qui deviendra son adjoint direct.
L'annonce le 21 mai du choix de Monseigneur Jean Zerbeau parmi les 5 nouveaux cardinaux a été saluée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui, je cite, « Cette nomination est un grand honneur pour l'Église catholique d'Afrique, mais plus encore pour l'Église catholique du Mali. » Fin de citation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Terrorisme en Afrique de l'Ouest, qu'est-il advenu de Malam Ibrahim Diko? C'est le chef du groupe terroriste Ansarul Islam qui a perpétré la plupart des récentes attaques dans le nord du Burkina. Ce mardi, un communiqué sur une page Facebook attribuée au groupe terroriste a désigné Jafar Diko comme le nouveau chef d'Ansarul Islam. Alors, Malam Diko a-t-il été tué dans les récentes opérations antiterroristes dans le nord Mali? Bagasikoura a joint à Bamako Moussa Diko, journaliste dans ce pays, le Mali.
sous réserve d'être authentifié, parce que c'est un communiqué publié sur une page Facebook. Si jamais le communiqué est authentifié venant de Ansar Islam, ça veut dire qu'il y a un changement de leadership au niveau de cette Katiba qui est beaucoup plus affiliée à l'État islamique qu'à Hakimi au Sahel, Maghreb du moins.
Oui. Alors, dans le communiqué, il parle de circonstances graves. Ça pourrait faire allusion à quoi?
Le communiqué est flou, mais c'est une circonstance grave. Et puis quand je vois qu'Allah le facilite, qu'il revient plusieurs fois, on a l'impression que les dernières opérations des forces Barkhane dans cette zone ont sans doute coûté la vie à Madame Ibrahim Diko. C'est l'impression que j'ai beaucoup plus que les messieurs. Soit il a été tué lors d'une opération Barkhane, ou il a été victime d'un règlement de compte au niveau même de son organisation. C'est l'impression que le communiqué donne.
Alors, on dit que son remplaçant, le remplaçant d'Ibrahim Diko, c'est Jafar Diko. Est-ce que vous connaissez cet homme?
Je ne connais pas précisément Jafar Diko. C'est un liste inconnu qui va peut-être sortir bientôt de l'anonymat. Et il faut surtout craindre des représailles, des opérations d'envergure, parce que chaque nouveau responsable nommé au niveau d'une katiba ou d'une organisation terroriste cherche d'abord à se mettre en évidence pour se faire respecter d'abord au sein de sa katiba.
Parlez-nous de l'importance de Ansarul Islam au sein des groupes islamistes au nord au Mali.
Et Ansarul a une position très ambiguë parce que, vous savez, récemment, il y a eu une alliance au niveau du Sahel où on a créé une nouvelle alliance commandée par IAD. Mais curieusement, Ansarou n'est pas dans cette dynamique, parce qu'Ansarou est beaucoup plus rattaché à l'État islamique, comme je l'ai dit plus haut. Mais bon, Ansarou a une puissance, parce que c'est Ansarou qui a amené le djihad au Burkina Faso. Ansarou est devenu vraiment un élément très dangereux, parce que ces éléments naviguent entre les frontières du Mali et le Burkina. Ils commettent des actes au Burkina, ils se réfugient au Mali, ils admettent des dégâts au Mali et ils retournent au Burkina. C'est ce qui explique d'ailleurs la multiplication des opérations de ratissage des armées maliennes burkinabées soutenues par Barkhane dans cette zone.
C'était notre confrère Moussa Diko, joint à Bamako par Bagassi Koura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Côte d'Ivoire, les populations de certains quartiers de Boaké ont du mal à s'approvisionner en eau courante, coupures intempestives, eau parfois jugée impropre à la consommation. Les abonnés de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, sont dans le désarroi. Unique entreprise chargée de la distribution de l'eau courante dans tout le pays, la SODECI est accusée d'offrir une piètre qualité de service à ses clients. De Boaké, reportage de notre correspondant Siriki Baro.
À Boaké, plus de 43 000 familles ont recours au service de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, pour leurs besoins en eau courante. Une eau quasi inexistante des robinets de plusieurs abonnés en raison des fréquentes coupures. Et lorsque ce liquide précieux s'écoule enfin des robinets, sa qualité est fortement remise en cause par les populations.
Madame Kané a mis, je vends l'eau glacée, il y a fréquemment des coupures d'eau. Souvent même ça sent l'odeur de l'eau de Javel.
Madame Sangare Meka, l'eau n'est vraiment pas du tout propre. L'eau est rouge et puis elle dégage une forte odeur.
Koffi Olivier, tu te lèves un matin, tu dis non que l'eau est coupée, parce que tu n'es pas compte de ce que tu n'as pas été informé. La coupure se fait selon leur vouloir. Une fois vous recueillez l'eau et que vous gardez, quelques minutes après, vous avez une couche qui se pose dans le fond du récipient dans lequel vous prenez l'eau.
Face aux nombreuses critiques et au mécontentement avéré de leurs abonnés, Kwadio Nguessan-Koman, directeur régional de la SODECI, fait des mises au point.
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la variation de la couleur de l'eau sur le réseau. Il y a souvent la couleur blanchâtre. La couleur blanchâtre, c'est des prises d'air qui, quand l'eau se repose, devient parfaitement claire, donc sans conséquence pour la consommation. Au niveau de la couleur rougeâtre, elle apparaît généralement quand on a des ruptures sur le réseau, des ruptures dues à des casses ou bien des arrêts programmés ou non programmés. Quand les tuyaux se vident, et donc par moment, quand l'eau revient, revient comme si elle est en train de rincer aussi la conduite.
Selon ce médecin qui a requis l'anonymat, l'eau produite par la SODECI ne présente aucun risque sanitaire pour les populations. Pour preuve, aucun cas de maladie n'a été signalé en rapport avec la consommation de cette eau. Le directeur régional de la SODECI, lui, tient à rassurer les consommateurs.
Dans l'eau SODECI, bien que colorée, cette eau est toujours propre et sans danger, parce que notre eau contient, n'est-ce pas, un désinfectant. Les coupures programmées font l'objet de communication. On prévient, n'est-ce pas, les clients à travers la voie de presse, également les circulaires dans les services. Ce qui nous est reproché, c'est les coupures non programmées, notamment les incidents sur le réseau, les casses des conduits, les ruptures de conduite. Quand cela intervient, nos équipes sont toujours à pied d'eau pour établir la continuité des services dans les heures qui suivent. Notre mission, c'est servir le client. C'est pourquoi on invite effectivement la population à fréquenter régulièrement nos agences.
En Côte d'Ivoire, plusieurs acteurs interviennent dans le secteur de l'eau potable, notamment l'Office national de l'eau potable. Elle a pour mission d'apporter à l'État et aux collectivités territoriales son assistance pour assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire. Siri Kibaro, Boaké pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Programme alimentaire mondial a demandé à l'Union européenne de l'aider à réunir 1 milliard de dollars au cours des prochains mois pour sauver des centaines de milliers d'enfants menacés par la faim au Nigeria, en Somalie, au Sud-Soudan, au Soudan du Sud et au Yémen. Solange Niamoulissa a joint André Vornik, porte-parole du PAM, pour un état des lieux.
Nous parlons a priori de 20 millions de personnes qui sont menacées par la famine. Il faut savoir que les chiffres se sont un peu améliorés ces dernières semaines dans la mesure où les deux post-famine auxquels on avait affaire au Soudan du Sud ont été plus ou moins résolus. Alors on a réussi à, disons, amoindrir l'impact en réussissant à prépositionner de la nourriture de façon à venir en aide aux populations. Et il faut dire aussi qu'on a bénéficié d'un accès humanitaire un peu plus accru que ce n'était le cas auparavant. Cela dit, il faut quand même souligner qu'il reste toujours 20 millions de personnes sont dans un état d'insécurité alimentaire aiguë et qui sont toujours sur le bord de la famine.
Et quelles sont les régions touchées tout justement par cette famine ?
Alors nous avons affaire au nord-est du Nigeria où nous avons trois états, surtout l'état de Borno, qui sont les états en fait les plus touchés par l'insurrection de Boko Haram. Vous avez une partie de la Somalie, vous avez le Sud-Soudan et vous avez bien sûr le Yémen. Il s'agit essentiellement d'un conflit qui perdure et qui met en danger quasiment la totalité du pays.
Ce n'est pas la première fois que le PAM vient de lancer un tel appel. Et si vous ne recevez pas l'argent, qu'est-ce qui va se passer ?
Si on ne reçoit pas l'argent, des gens vont mourir. Et nous parlons effectivement de beaucoup de personnes. Évidemment, il n'y aura sans doute pas 20 millions de morts, mais nous parlons quand même potentiellement, par exemple, de 100 000 enfants qui souffrent de malnutrition et qui risquent effectivement de perdre la vie. Il faut savoir aussi que la famine, c'est quelque chose qui frappe d'une façon extrêmement aiguë les populations, mais que si on intervient trop tard, même si on arrive à réduire l'impact dure quand même pendant des années. Il faut savoir quand même qu'il s'agit d'une perte de la force productive de divers pays.
Combien d'argent avez-vous besoin pour répondre à ces besoins ?
Grosso modo, nous parlons d'à peu près 1 milliard 100 millions de dollars répartis sur les quatre pays. Bien sûr, ce n'est qu'une partie des chiffres nécessaires sur la longueur de l'année, mais il faut savoir que cette crise touche tout le monde et nous comprenons d'une certaine façon le fait que les pays donateurs soient un peu moins disposés à payer pour essayer de remédier à cette tragédie dans la mesure où, bien sûr, il y a des pressions budgétaires internes, dans la mesure où il y a une profusion de crises qui se déroulent sous nos yeux. Mais nous en appelons quand même à la solidarité internationale sur ce dossier. Et il faut savoir que nous ne nous bornons pas seulement à demander de l'argent. Nous demandons aussi à ce que pression soit faite sur les parties en conflit, parce qu'il faut savoir que dans quasiment toutes ces zones qui sont infectées, les parties en conflit ne respectent pas le droit humanitaire.
C'était André Vornik, porte-parole du PAM à Rome.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Lumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.